Lettre 217 de Madame de Sévigné à Madame de Grignan. À Paris, vendredi 26 janvier 1680. Je veux commencer par votre santé. C'est ce qui me tient uniquement au cœur. C'est sans préjudice de cette continuelle pensée que je vois, que j'entends et que je prends intérêt à toutes les choses de ce monde. Elles sont plus proches ou plus loin de moi, selon qu'elles ont plus ou moins de rapport à vous. Vous me donnez même l'attention que j'ai aux nouvelles. Je vous trouve bien dorlotée, bien mitonnée, ma chère enfant. Vous n'êtes point dans le tourbillon, je suis en repos pour votre repos. Mais je n'y suis pas pour cette chaleur et cette pesanteur et cette douleur sans bise, sans fatigue. Je voudrais bien un peu plus d'éclaircissement sur un point si important. Tant de soins qu'on a de vous ne sont pas sans raison, ni par pure précaution. Je souhaite que vous soyez changé sur l'écriture et que ce soit sincèrement que vous ne vouliez plus vous tuer avec votre écritoire. Confirmez-moi cette bonne opinion de vous et en nul cas ne m'écrivez de grandes lettres, vous m'en écrivez assez et trop. Mon Gobert s'en acquitte très bien et, comme je vous ai dit, elle peut même vous soulager de dicter. Je voudrais qu'elle mêlât un mot du sien sur le sujet de votre santé. En vérité, je ne me souviens plus du petit de Gonor. Je vous laisse le soin et à votre frère de ses anciennes dates. Sans la présence de mademoiselle, j'aurais renoncé mademoiselle d'Épernon. Je dis ce jour-là et toujours ces sottises que vous appelez jolies et tout ce qu'on peut faire pour les adoucir. Vous voulez tirer de ce rang le compliment que je fis à madame de Richelieu, je le veux bien, car il ressemble à ce que lui aurait dit monsieur de Grignan. J'y pensais. Voilà justement de ces choses qui lui viennent quand il parle et quand il écrit. C'est ce qui fait que ses lettres font toujours, 2 mois durant, l'ornement de toutes les poches. Madame de Coulanges avait encore hier la sienne et la montre. Cela n'est-il pas plaisant? Au reste, ma très chère, ne comptez point tant que vous soyez où vous devez être, que vous ne comptiez encore que vous devez être quelquefois ici. C'est votre pays et celui de monsieur de Grignan. Et je vivrai bien tristement si je n'espérais vous y revoir cette année. Monsieur de Rennes vous garde votre appartement et nous donnera pourtant tout le temps d'y faire travailler. Vous ne m'avez aucune obligation de cette société, ce n'en est point une, c'est un homme admirable, il ne pèse rien, non plus que ses gens, sa conversation est légère, on le voit peu, il trotte assez et ne hait pas d'être dans sa chambre. On le souhaite, il ne ressemble pas à feu monsieur Dumas. Enfin, il est tel que si on souhaitait quelqu'un qui ne fût pas vous, ce serait un autre comme celui-là. Il m'a prié déjà plusieurs fois de vous faire bien des compliments et de vous dire que, quelque joie qu'il ait d'être ici, il m'aime trop pour n'avoir pas beaucoup d'envie de vous quitter la place. On ne parle plus de madame de Soubise, on n'y pense même déjà plus. Vraiment, il y a bien d'autres affaires. Et je crois que je suis folle de m'amuser à parler d'autre chose. Il y a 2 jours que l'on est assez comme le jour de mademoiselle et de monsieur de Lauzun. On est dans une agitation, on envoie aux nouvelles, on va dans les maisons pour en apprendre, on est curieux, et voici ce qui a paru, en attendant le reste. Monsieur de Luxembourg était mercredi à Saint-Germain, sans que le roi lui fît moins bonne mine qu'à l'ordinaire. On l'avertit qu'il y avait contre lui un décret de prise de corps. Il voulut parler au roi. Vous pouvez penser ce qu'on dit. Sa Majesté lui dit que, s'il était innocent, il n'avait qu'à s'aller mettre en prison et qu'il avait donné de si bons juges pour examiner ces sortes d'affaires qu'il leur en laissait toute la conduite. Monsieur de Luxembourg pria qu'on ne l'y menât point et, en effet, il monta aussitôt en carrosse et s'en vint chez le père de la chaise. Mesdames de Lavardin et de Moussy, qui venaient ici, le rencontrèrent dans la rue Saint-Honoré, assez triste dans son carrosse. Après avoir été 1 heure aux jésuites, il fut à la Bastille et remit à Baisemaux, le gouverneur, l'ordre qu'il avait apporté de Saint-Germain. Il entra d'abord dans une assez belle chambre. Madame de Mecklembourg vint l'y voir et pensa fondre en larmes. Elle s'en alla et 1 heure après qu'elle fut sortie, il arriva un ordre de le mettre dans une des horribles chambres grillées qui sont dans les tours, où l'on voit à peine le ciel et défense de voir qui que ce fût. Voilà, ma fille, un grand sujet de réflexion. Songez à la fortune brillante d'un tel homme, à l'honneur qu'il avait eu de commander les armées du roi, et représentez-vous ce que ce fut pour lui d'entendre fermer ses gros verrous, et s'il a dormi par excès d'abattement, pensez au réveil. Personne ne croit qu'il y ait du poison à son affaire. Je vous assure que voilà une sorte de malheur qui en efface bien d'autres. » Madame de Tingris est ajournée pour répondre devant les juges. Pour madame la comtesse de Soissons, elle n'a pu envisager la prison. On a bien voulu lui donner le temps de s'enfuir si elle est coupable. Elle jouait à la bassette mercredi. Monsieur de Bouillon entra. Il la pria de passer dans son cabinet et lui dit qu'il fallait sortir de France ou aller à la Bastille. Elle ne balança point. Elle fit sortir du jeu la marquise d'Aluy. Elle ne parurent plus. L'heure du souper vint. On dit que madame la comtesse soupait en ville. Tout le monde s'en alla, persuadé de quelque chose d'extraordinaire. Cependant, on fit beaucoup de paquets, on prit de l'argent, des pierreries. On fit prendre des justaucorps gris aux laquais et aux cochers. On fit mettre 8 chevaux au carrosse. Elle fit placer auprès d'elle, dans le fond, la marquise d'Aluy, qu'on dit qu'il ne voulait pas aller, et 2 femmes de chambre sur le devant. Elle dit à ses gens qu'ils ne se missent point en peine d'elle, qu'elle était innocente, mais que ces coquines de femmes avaient pris plaisir à la nommer. Elle pleura. Elle passa chez madame de Carignan et sortit de Paris à 3 heures du matin. On dit qu'elle va à Namur. Vous croyez qu'on n'a pas dessein de la suivre. On ne laissera pas de faire son procès, ne fût-ce que pour la justifier. Il a bien des noirceurs dans ce que dit la voisine. Le duc de Villeroy paraît très affligé, ou pour mieux dire, ne paraît pas, car il est enfermé dans sa chambre et ne voit personne. Peut-être vous dirai-je encore quelques nouvelles avant que de fermer cette lettre. Madame de Vibray a repris le train de sa dévotion. Dieu n'a pas voulu qu'elle ait passé sa vie, comme vous dites fort bien, avec ses ennemis. Madame de Bury fait fort joliment tourner son moulin à paroles. Si on voit la princesse à Paris, madame de Vins désire que j'y aille avec elle. Pomenas a été taillé, vous l'ai-je dit? Je l'ai vu. C'est un plaisir que de l'entendre parler sur tous ces poisons. On est tenté de lui dire « Est-il possible que ce seul crime vous soit inconnu ?» Volonne dit son avis comme un autre, admirant le commerce qu'on a eu avec ses coquines. La reine d'Espagne est quasi aussi enfermée que monsieur de Luxembourg. Madame de Villars mandait l'autre jour à madame de Coulanges que si ce n'était pour l'amour de monsieur de Villars, elle ne passerait point son hiver à Madrid. Elle fait des relations fort jolies et fort plaisantes à madame de Coulanges, croyant bien qu'elles iront plus loin. Je suis fort contente d'en avoir le plaisir sans être obligée d'y répondre. Madame de Vins est de mon avis. Monsieur de Pomponne est allé pour 3 jours respirer à Pomponne. Il a tout reçu, il a tout rendu. Voilà qui est fait. Il me serre toujours le cœur quand il me demande si je ne sais point de nouvelles. Il est ignorant comme sur les bords de la Marne. Il a raison de calmer son âme tant qu'il pourra. La mienne a été fort émue, aussi bien que celle de l'abbé, de ce que vous écrivez de votre main. Vous ne l'avez pas senti, ma chère enfant. Il est impossible de le lire avec des yeux secs. Eh, bon Dieu, vous comptez bonne à rien et inutile partout à quelqu'un qui ne compte que vous dans le monde. Comprenez l'effet que cela peut faire. Je vous prie de ne plus dire de mal de votre humeur. Votre cœur et votre âme sont trop parfaits pour laisser voir ces légères ombres. Épargnez un peu la vérité, la justice et mon seul et sensible goût. Ma chère enfant, je ne compterai point ma vie que je ne me retrouve avec vous.